Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le Nouveau Testament utilise plusieurs images pour nous aider à comprendre la relation qui existe entre Jésus-Christ et son Église. Dans la lettre de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, nous apprenons que l'Église est l'épouse de Christ. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Étienne est de retour parmi nous pour nous en dire davantage.
Ensuite, dans la deuxième partie de notre émission, Antoine nous rejoindra pour aborder le thème du mariage. Nos deux séries s'appuieront sur l'enseignement de Paul trouvé dans Éphésiens chapitre 5. À présent, Sandre va nous lire le verset 25.
Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église.
Merci et bonjour Étienne. Merci d'être de retour parmi nous.
C'est avec plaisir, Yann, et bonjour à tous.
Christ aime l'Église, mais en quoi consiste l'amour de Christ? Comment le définir? Voici les questions qui nous préoccupent dans cette série de discussions. Étienne, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Il est vrai que les mots « aimer » ou « amour » peuvent avoir des significations très différentes selon le contexte dans lequel ils sont prononcés. L'amour qui lie les parents à leur enfant n'est pas le même que celui qui existe entre deux jeunes qui commencent à se fréquenter, par exemple. De plus, de nos jours, les médias mettent plutôt l'accent sur l'amour sentimental, romantique et sexuel. Toutefois, l'amour de Christ pour l'Église est différent. Et aujourd'hui, je vais parler de sa fidélité, qui est une expression importante de son amour.
Merci. Oui, parler de la fidélité est important, car c'est une qualité qui se perd, me semble-t-il. Pouvez-vous commencer par expliquer ce qu'est la fidélité?
Oui, l'amour fidèle est l'amour qui dure à travers le temps. C'est l'amour qui reste constant. C'est l'amour où les engagements et les promesses sont tenus. Et ceci malgré les circonstances qui changent constamment.
Vous venez de mentionner trois aspects de la fidélité, qui sont comme les trois faces d'un diamant qui scintille. Arrêtons-nous à présent sur chacune de ces qualités pour en parler plus en détail, car elles représentent toutes une expression de l'amour de Christ.
Oui, parlons tout d'abord de l'amour fidèle de Jésus qui traverse les âges. Les Écritures nous enseignent que Christ a toujours aimé l'Église, et ceci même bien avant la création du monde. Il l'a aimée alors qu'elle n'était encore qu'un simple projet qui allait être réalisé par le Dieu trois fois saint. Puis, Christ a aimé l'Église à travers tous les siècles de l'histoire des hommes. Il l'a aimée depuis sa naissance au jour de la Pentecôte. Il l'aime aujourd'hui encore et pour toujours. Après la résurrection, il l'aimera durant toute l'éternité. L'amour fidèle de Jésus-Christ est un amour éternel. Christ n'abandonnera jamais son Église. On ne pourra donc jamais dire « Christ n'aime pas son Église ». Ces paroles ne seront jamais vraies. Tout chrétien authentique et sincère fait partie de l'Église et il peut donc s'écrier avec assurance « Christ m'a toujours aimé, Christ m'aime aujourd'hui et il m'aimera pour toujours ».
Vous avez aussi affirmé que l'amour fidèle est un amour constant. Que voulez-vous dire par là?
L'amour des hommes et des femmes a tendance à changer selon leurs humeurs ou les circonstances qu'ils traversent, ou encore les saisons de la vie. Leur amour est comme un vent qui souffle, chaud un jour et froid le lendemain. Toutefois, l'amour du Christ, lui, est fidèle. Il est constant, il ne se refroidit jamais. L'amour qui lie deux personnes peut se refroidir à force d'être exposé aux comportements désagréables ou abusifs, aux paroles blessantes ou aux trahisons. De telles circonstances peuvent conduire à une rupture de relation, ou bien peu à peu à un amour qui se transforme en amertume et en rancune. L'Église attriste Jésus à bien des égards, car Jésus désapprouve le péché. Nos mauvais comportements lui font de la peine et il suscite sa juste colère. Et pourtant, son amour pour l'Église et pour chacun de ses membres individuellement ne change pas. Jésus demeure fidèle et compatissant. Il se montre patient, lent à la colère. Il reste toujours disposé à nous pardonner. Dans l'Ancien Testament, Dieu demanda à l'un de ses prophètes, un homme nommé Osée, de se marier avec une prostituée et de la couvrir de son amour. Toutefois, après un certain temps, cette jeune prostituée a retrouvé ses amours d'autrefois et elle a poursuivi ses anciennes habitudes. Et malgré cette vie choquante, Dieu a demandé au prophète de continuer à l'aimer fidèlement, envers et contre tout, afin de la regagner et de la retirer de sa vie dissolue. Dieu a demandé au prophète d'agir ainsi pour donner à son peuple une illustration vivante de son propre amour pour lui. Le peuple d'Israël, tout comme chacun d'entre nous, avait tendance à abandonner Dieu pour se tourner vers d'autres amours, pour invoquer des idoles et sombrer dans des comportements séducteurs, mauvais, destructeurs. Et toutefois, Dieu n'a jamais abandonné ou rejeté son peuple. Mais il a déployé pour lui tout son amour afin de le regagner, de le ramener à lui. Même si nous sommes infidèles, Christ, lui, demeure fidèle. Notre cheminement spirituel peut connaître des hauts et des bas. Notre amour pour Christ peut être un jour brûlant et l'autre froid. Toutefois, même si nous sommes inconstants, son amour pour nous, lui, restera constant.
Merci Étienne. Enfin, vous avez dit qu'une personne qui aime fidèlement tient sa parole et ses engagements.
Oui, c'est exact, Yann. Jésus aime l'Église d'un amour fidèle. Alors, tous ses desseins pour elle s'accompliront. Toutes les promesses qu'il a prononcées à son sujet se réaliseront. Nous jouissons aujourd'hui déjà de tant de bénédictions que Dieu avait promises. Jésus sur la croix nous a sauvés de la mort. Il a donc bien tenu ses engagements. Sur la croix, il est mort pour nos péchés. Il a fait preuve d'un amour sans prix. Du coup, Dieu nous pardonne nos péchés, il nous délivre de la mort. Il nous réconcilie avec lui et il nous adopte comme ses enfants. Mais nous attendons encore la réalisation d'autres promesses, celle du retour de Jésus-Christ notamment. La promesse aussi de la résurrection à la vie éternelle. La promesse de la nouvelle création, où Christ fera toutes choses nouvelles et merveilleuses. Mais puisque nous savons que Christ est fidèle, il l'a prouvé à maintes reprises, nous pouvons attendre avec confiance l'accomplissement de toutes ces promesses extraordinaires.
Merci Étienne de nous avoir donné un petit aperçu de l'amour fidèle de Christ pour son Église.
Nous venons de parler de la fidélité de Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, l'amour de Christ pour l'Église représente un modèle pour tout couple marié. Il nous semble donc important, dans ce contexte, de parler de l'importance de la fidélité au sein du mariage.
Antoine est de retour parmi nous pour aborder cette question. Antoine, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Nous allons donc parler de la fidélité au sein du mariage. Et il faut le souligner, il s'agit d'une question de première importance.
Pourquoi ?
Parce que dans beaucoup de pays, on peut rencontrer un très grand laxisme moral dans ce domaine. Nos médias cherchent à nous faire croire que les relations illicites et l'infidélité sexuelle sont normales. Ces attitudes sont trop souvent encouragées et présentées comme une grande aventure et un moyen d'atteindre un épanouissement personnel. Lorsque nous sommes plongés dans une telle culture immorale et que nous rencontrons des difficultés au sein de notre mariage, il peut devenir tentant de croire aux mensonges séducteurs du monde et de pécher en imaginant échapper à nos propres échecs. Nous le répétons, Dieu exige que nous demeurions fidèles à notre conjoint. La Bible expose tous les dangers de l'adultère qui apporte en réalité plus de malheur que de bonheur.
Quel est donc l'enseignement biblique concernant la fidélité sexuelle?
Les desseins de Dieu pour l'homme et la femme apparaissent dès leur création en Genèse chapitre 2. Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils vivent unis l'un à l'autre et qu'ils puissent jouir d'une relation particulièrement intime et privilégiée. Il s'agit d'une union aussi sur le plan sexuel. Enfin, et c'est très important, il s'agit d'une union exclusive, et par exclusive, je veux dire qu'une tierce personne n'a pas le droit de s'ingérer dans cette union pour la briser. Un homme n'a pas le droit de prendre la place de l'époux d'une femme déjà mariée. Et réciproquement, une femme n'a pas le droit de prendre la place de l'épouse d'un homme déjà marié. Selon les desseins de Dieu, la pratique des rapports sexuels doit se limiter au cadre du mariage seul. Ainsi, l'adultère sous toutes ses formes doit être exclu, telles que les relations amoureuses illicites, le recours aux prostituées et même la pornographie. Souvenez-vous que le septième commandement révélé à Moïse déclare tout simplement « Tu ne commettras pas d'adultère ». Même si dans la plupart des pays, l'adultère n'est plus considéré comme un acte criminel, il ne faut pas oublier qu'il est formellement interdit dans la loi divine et éternelle.
Merci pour cet enseignement clair et important.
Le livre des Proverbes compare la sagesse divine avec celle des hommes et l'auteur en arrive à la conclusion que les agissements des hommes sont pure folie. En effet, les Proverbes présentent l'infidélité, les relations illicites ainsi que l'adultère comme des attitudes les plus folles des êtres humains. Écoutons notre lectrice nous lire des extraits des Proverbes au chapitre 5.
Mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. Car la femme adultère distille des paroles mielleuses, et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la fin qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui. De peur que, près de ta fin, tu ne gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu ne dises « Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné ? Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues ? Qu'ils soient pour toi seuls. Ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. »
Merci. Cette lecture représente une mise en garde très claire sur la folie des relations sexuelles en dehors du mariage. La pratique de l'infidélité dans le domaine sexuel entraîne de très graves conséquences et dangers. L'infidélité représente une trahison envers une épouse ou un époux. Elle crée des blessures profondes dans le cœur de ceux et celles qui nous aiment, et elle risque d'engendrer des ruptures de relations irréparables. Notre réputation est détruite, notre dignité perdue. Sur les plans émotionnels et matériels, nous risquons de perdre beaucoup. Et plus important encore, nous mettons en péril notre relation avec Dieu, le juste juge. Vraiment, l'infidélité sexuelle est à éviter et à tout prix.
Merci Antoine. Nous devons nous arrêter là, mais ce sujet traitant la fidélité au sein du mariage est tellement important que nous y reviendrons la prochaine fois.
En attendant, chers amis, de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.